Alors, au lendemain du premier tour des élections législatives, le RN et ses alliés semblent être les seuls à pouvoir encore prétendre à une majorité absolue à l'Assemblée dimanche prochain. Désormais, ce n'est plus l'hypothèse la plus probable, mais Jordan Bardella tente tout de même de galvaniser ses troupes. Écoutez le président du RN.
Je ne crains aucun désistement. Je crois que le Rassemblement national peut remporter cette élection dimanche avec une majorité absolue, évidemment avec ses alliés, notamment les Républicains à droite d'Éric Ciotti. Donc j'appelle les Français à rester mobilisés et j'entends évidemment, sur la base de cette majorité absolue, constituer un gouvernement d'union nationale pour mettre en œuvre le projet de redressement que j'ai présenté au pays. Donc soit les Français m'accordent cette majorité absolue, soit ils prendront le risque de voir le nouveau Front populaire arriver à la tête du pays. Moi, je ne veux pas de cela pour la France.
Charles Sapin du Point est resté avec nous et nous sommes rejoints par Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste et spécialiste de notre vie politique, et Thierry Arnaud, éditorialiste de BFM TV. Charles, selon un décompte de nos confrères du Monde, 169 candidates et candidats se sont d'ores et déjà désistés pour faire barrage au Rassemblement national. C'est potentiellement un coup dur pour M. Bardella ?
Il dirait que traditionnellement, plus vous avez de triangulaire, plus c'est favorable au Rassemblement national, parce que ça empêche une forme de front républicain. Ouais. Maintenant, il faut être extrêmement prudent. Ah. Pourquoi ? Parce que la situation peut encore énormément bouger. Les différents états-majors et candidats ont jusqu'à demain 18h pour savoir s'ils se désistent, s'ils se maintiennent ou non. Et puis, finalement, cette arme du front républicain est un peu érodé, et c'est un euphémisme. On a vu en 2022 aussi des états-majors, des candidats se retirer, des fronts républicains déclarés contre le Rassemblement national. Or, surprise, 89 députés Rassemblement national ont été élus à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'on a vu un phénomène se développer. Oui. Vous avez eu un front républicain anti-RN, mais aussi un front pour des électeurs de droite anti-Mélenchon, anti-bloc de gauche et anti-NUP à l'époque. Et vous avez aussi, dans les catégories populaires, un bloc anti-Macron qui s'est développé. Or, le problème, c'est que quand vous avez plus d'un front, vous en avez en l'occurrence trois, et ben les fronts s'annulent. Et regardez, moi, vous avez des cas, par exemple, où vous avez des retraits. Si vous êtes dans une circonscription plutôt à droite, on va dire celle de Sablé-sur-Sarthe, où Marie-Carine Le Pen est candidate et est arrivée en tête.
Marie-Caroline
Le Pen. Vous avez un RN arrive en tête. Le numéro 2, c'est le nouveau Front populaire. Et le numéro 3, c'est Ensemble, la majorité présidentielle, le camp présidentiel. Le camp présidentiel se retire en disant « je vais faire barrage au RN ». Oui. Sauf que c'est une circonscription de droite, avec des électeurs de droite. Oui. Et on ne sait pas, je ne sais pas, et personne ne sait, si ces électeurs de droite ne vont pas se dire « le barrage, plutôt que le faire contre le RN », faudrait mieux le faire contre les électeurs de gauche, enfin contre l'offre de gauche alliée à Jean-Luc Mélenchon, aux insoumis qui ont eu des outrances depuis le 7 octobre.
Vous partagez cette analyse ?
Je partage non seulement cette analyse que les consignes nationales venant de la majorité en place, c'est-à-dire du bloc central, sont absolument sans clarté.
Et, sans clarté ou inaudible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Les deux, à mon sens.
Bon, mon général.
Merci. Bien sûr, Yves, bien sûr. Oui. Mais la vraie question, c'est que plus elle manque de clarté au niveau des états-majors, moins la base les suit. Ça, c'est une étude sociologique, ça a toujours été comme ça. Donc, au fond, même les candidats locaux ne se sentent pas complètement contraints, à mon avis, par ce type de consignes. Et puis, ajoutons aussi au fait que ce front peut perdre complètement le bloc central, parce que ce bloc central, soit il est considéré comme votant avec certains LFI, comme allant pactiser à gauche, et n'oublions pas qu'ils ont encore des institutions clés. Ils ont encore le président de la République, ils ont encore au moins un groupe assez important à l'Assemblée nationale, le Sénat, avec lequel ils devront dialoguer. Donc on ne peut pas perdre complètement le discours de ce bloc central dans cette idée d'alliance complètement composite et contre nature. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver un pied intelligent. Sans cela, il risque de perdre complètement la bataille de la crédibilité.
Thierry Arnaud, est-ce qu'il est acquis définitivement, parce qu'on n'en est pas totalement convaincu, que le Rassemblement national, on entendait M. Bardella il y a quelques instants, s'il n'a pas sa majorité absolue, ne va pas à Matignon?
Alors, ça dépendra de ce que veut dire ne pas avoir la majorité absolue, qui est, rappelons-le, de 289 sièges sur les 577 députés.
Merci de le rappeler.
S'il en est très loin, s'il est à 250 sièges et qu'il lui en manque 39, alors 250 avec ses députés et ceux du camp républicain tendance Ciotti, il n'ira probablement pas. S'il s'en approche et s'il voit une combinaison possible, à ce moment-là, ça sera difficile d'expliquer aux Français qu'à quelques petits sièges près, on refuse le mandat qu'auront donné les Français malgré tout, puisqu'il s'agira d'une majorité relative, et d'autre part une majorité relative qui a quand même de fortes chances d'être à nouveau soutenue par une participation très forte aux élections, donc qui lui donnera un poids et une légitimité populaire particulièrement forte.
Donc Charles Sapin, il y a un seuil au-delà duquel Jordan Bardella ne peut pas se dérober d'une certaine façon.
Tout à fait. En effet, il y a deux scénarios finalement. On en revient. Soit ce front républicain ne fonctionne pas, pour toutes les raisons qu'on a rappelées. Et dans ce cas, Jordan Bardella a une majorité absolue ou très proche de celle-ci.
C'est votre conviction au moment où nous parlons, en tout cas votre analyse du scrutin tel que vous voyez arriver.
Vu la force des ressorts du Rassemblement National aujourd'hui, l'ambiguïté des différents états-majors et l'état d'esprit d'une partie de la population déjà exprimée de façon très forte aux européennes,
vous dites que c'est possible.
C'est possible.
Une majorité pour le RN, c'est possible.
Ça fait partie des scénarios tout à fait possibles. On est d'une majorité absolue Rassemblement National.
Et pourtant, tous les instituts de sondage, qui par définition sont prudents, nous disent que ce n'est pas le plus probable.
Oui, parce que si vous voulez, ils font des calculs.
Ils pétochent de le dire, d'après vous ? Ils nous cachent des chiffres ? Pardonnez-moi, je ne suis pas du tout...
Non, je pense qu'ils sont prudents et ils ont raison de l'être. Et en fait, ils ont des projections en siège qui sont calculées à partir d'une situation à un instant T. Or, comme on l'a dit, si vous voulez, on commencera à connaître vraiment la réalité des prix, si je puis dire, demain, mardi, à 18h, on connaîtra
qui sera. Ah, demain, 18h.
Mais si vous voulez, donc il y a ce scénario majorité absolue, puis il y a un autre scénario. Il y a le scénario où, en effet, cette majorité absolue, elle serait très très loin. Ouais. Jordan Bardella ne l'a pas et ne peut pas séduire suffisamment de députés pour l'avoir. Dans ce cas, on rentre dans une période... assez inconnu, où vous allez avoir un arc très large, une majorité qui va essayer de se constituer de François Ruffin à Laurent Wauquiez, Madame Rousseau à Madame Berger. Donc finalement, ça sera une alliance un peu de la carpe et du lapin qui va essayer de conclure des accords de gestion, cela jusqu'à la présidentielle. Il faudra se poser la question en 2027 si cet accord bon an mal an qu'il favorise encore une fois. Parce que si une frustration des électeurs aujourd'hui exprimée dans les urnes n'a pas débouché aujourd'hui, il n'est que repoussé.
On évoque parfois la possibilité d'un gouvernement technique. Vous savez, c'est-à-dire qu'on prend des hauts responsables de l'administration, conseils compétents, à qui on confie les rênes du pays. C'est quelque chose de concevable, de constitutionnel
Alors, je fais un petit retour en arrière sur les projections en siège pour expliquer un petit peu la méthodologie. Oui. Ce pourquoi, en fait, ils sont très incertains, ces éléments de projection. C'est parce qu'on n'a même pas l'offre exacte. Et donc, en fait, ces projections en siège reposent sur des hypothèses où parfois on est à 3, alors qu'en fait, on va être à 2, où des duels vont changer la donne. Donc, se projeter en siège à partir des résultats d'un premier tour, ça serait presque tout le temps impossible. Oui. Mais alors, surtout sur cette élection-là, où on a 300 triangulaires, c'est quelque chose d'assez difficile à considérer comme viable pour le moment. Donc, il faut vraiment attendre demain soir pour savoir où on en est au niveau de ces projections, d'abord. Ensuite, moi, c'est vraiment un scénario auquel je crois très peu, celui du gouvernement technique, parce que ça supposerait qu'on ait une concurrence de légitimité en réalité entre plusieurs blocs, c'est-à-dire des majorités tellement courtes obtenues par le vainqueur qu'il est impossible pour le gouvernement à venir de ne pas subir la censure des oppositions coalisées. Oui. C'est comme ça qu'on le définit en Italie quand on parle du gouvernement technique. Et attention, contrairement à ce qu'on croit, ça ne date certainement pas de 2021. L'Italie connaît ça depuis les années 92.
Ah oui.
Mais ce gouvernement technique, il est rendu possible justement dans
une situation... On a eu ça en Belgique aussi, non ?
Exactement. Dans une
situation... Ça n'en finissait pas.
De blocage, en fait. Or, pour être dans une situation de blocage, il faut une majorité non seulement relative, mais particulièrement relative, en quelque sorte. On pourrait maintenant estimer qu'il y a des nuanciers de majorité relative. Parce que Elisabeth Borne, Michel Rocard ont réussi à gouverner en période de majorité relative. Et encore une fois, le groupe DLR sera forcément un pivot en période de majorité relative à 240, 250, 260 sièges même, parce qu'on peut estimer que sur certains projets comme le budget, il peut y avoir parfois certaines ententes. Donc n'oublions pas que ce scénario d'un gouvernement technique, c'est cette idée de dépolitiser complètement la composition du gouvernement pour trouver des accords entre groupes qui ne sont pas susceptibles de trouver des
points. Comment ils l'ont vécu, les Italiens, ce gouvernement technique ?
Sauf que je voulais juste répondre, si vous le permettez, c'est qu'il faut bien un gouvernement. Et si on n'a pas de majorité, ne serait-ce que pour des raisons juridiques que vous maîtrisez beaucoup mieux que moi, mais il faut signer les décrets, il faut voter les budgets. Donc ce gouvernement technique, c'est un gouvernement...
Je souris parce que je vois notre tête, vous savez, de l'annonce sur le perron, mais avec 25 personnes dont nous n'avons jamais entendu parler.
Il y a une obligation d'avoir un gouvernement.
Oui, un gouvernement.
Il y a, encore une fois, il y a des décisions à prendre, il y a des décrets à signer, etc. Donc c'est un gouvernement qui, paradoxalement, s'engagerait à ne pas réformer, donc à ne rien faire au sens de ne pas avoir de projet de transformation. Bah oui, parce qu'il ne serait pas
rien de politique, ça veut dire ne rien faire.
Il n'aurait pas ne rien faire au sens pas de réforme, ne pas réformer les retraites, ne pas engager un nouveau système d'assurance chômage puisque c'est le projet qui a été battu en traite. Donc ne pas faire des réformes.
Si je vous dis gérer en père de famille, enfin, même si ce terme doit faire bondir aujourd'hui.
Je pense que l'expression la plus juste, ça serait de dire expédier les affaires courantes. C'est-à-dire qu'on permet au gouvernement de continuer à tourner parce que la machine fonctionne. Oui. Parce qu'encore une fois,
doit avoir un ministre des Affaires étrangères.
Voilà, exactement.
On a des soldats sur des terrains.
Il faut un ministre de la Défense, il faut un ministre des Affaires étrangères, il faut un ministre des Finances pour signer un certain nombre de choses. Voilà, donc ces postes, il va falloir les pourvoir, même s'il n'y a pas une majorité qui fonctionne. La contrepartie, ce sera encore une fois que qu'on donne l'assurance que ce gouvernement n'engagera pas de réforme qui soit en quelque sorte colorée politiquement.
Alors ce pourquoi moi j'estime, et je vous rejoins largement, c'est que l'hypothèse est la moins probable parce que ça suppose une majorité particulièrement courte pour celui qui sera vainqueur à l'Assemblée nationale. Mais si nous prenions ce scénario par l'absurde, eh bien évidemment que ce gouvernement technique s'imposerait pour une raison constitutionnelle, qui est celle de l'article 12. C'est impossible de redissoudre l'Assemblée nationale avant le 9 juin 2025. Donc on a un an.
Rendez-vous le 9 juin 2025.
Et j'entends souvent dire que le changement de président de la République serait une sorte de sortie de ce blocage. C'est absolument impossible, puisque quand bien même le président changerait, il serait tenu de garder cette même Assemblée nationale. Oui. Donc nous avons de toute façon une année avec l'Assemblée qui sera composée le 8 juillet. Et précisément, si cette majorité est très courte par l'Assemblée qui sera élue le 8 juillet, eh bien, il faudra un gouvernement pour répondre à cette période de crise. Et c'est là qu'on parle du gouvernement technique, notamment pour mettre en œuvre, par exemple, un budget de simple fonctionnement. C'est-à-dire un budget qui n'est pas de coloration politique, mais qui permette de percevoir les impôts, de faire les dépenses les plus courantes, paiement des fonctionnaires, et éviter le shutdown à l'américaine.
Dans les coalitions que l'on peut imaginer, est-ce qu'il y en a une qui vous paraît un peu plus probable que d'autres ? Je ne sais pas, de centre-droit, de centre-gauche, entre les sociaux-démocrates, à un moment, il faut se mettre d'accord avec France Insoumise, ou à droite, entre les LR, une partie de RN, enfin voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît concevable ?
Alors, il y a peut-être une première donnée politique et ensuite une donnée, on va dire, d'échiquier. La première donnée politique, c'est qu'il sera très difficile pour le Rassemblement national, même à majorité relative courte, d'expliquer à l'opinion qu'il n'envoie pas un seul ministre, qu'il refuse la gouvernance, qu'ils font une politique de la chaise vide. Moi, je trouve que pour l'opinion, c'est particulièrement rude. Néanmoins, la logique d'échiquier fait que quand on veut avoir ce type de gouvernement apolitique et précisément nettoyé de toute ambition de réforme, eh bien, la gouvernance se fait plutôt sur des questions de centre, puisque on va essayer de chercher ce qu'il y a de moins irritant. Donc on peut imaginer que les deux extrêmes en seront assez logiquement exclus, étant donné que si on veut du technique, c'est parce qu'on veut éviter tout projet politique. Et pourquoi on évite ce projet politique ? Pour éviter que les gouvernements soient renversés. Ce qu'on veut avec ce gouvernement technique, c'est ce qu'on a eu sous la fin de 4e République, un gouvernement dit de troisième force, qui a réussi à se maintenir quelques années par rapport à la tendance de la 4e République, qui était un gouvernement par mois, et qui est une forme de lutte contre l'instabilité ministérielle. Donc soit on a ce gouvernement technique, soit on a un gouvernement politique, mais qui tient trois semaines.
Je ne vous parle pas des LR qui ont déjà plié ou rejoint d'une certaine façon, mais est-ce que vous pensez que la droite française en ce moment peut trouver une alliance avec le Rassemblement national ?
Alors, je pense que c'est une question qui va se poser et qui est peut-être...
Elle va leur être posée, en tout cas.
Qui est déjà sur la table, je pense, évidemment, parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On est en train de faire des calculs de projection, de nombre de sièges, de désistement. L'idée étant que on va donc avoir sur ces 577 sièges à pourvoir, on sait qu'il y avait théoriquement 306 élections triangulaires. Oui. Vous pouvez en retirer, je crois qu'on est à peu près maintenant à 175 désistements.
177.
Voilà, donc ce chiffre ne cesse de progresser. Donc ça veut dire grosso modo qu'il ne reste plus que 130 triangulaires à peu près, un petit peu moins, 129 si je compte bien. Et ce chiffre va à nouveau baisser. Oui. Et tout ça, évidemment, a un seul objectif, c'est de priver le Rassemblement national de la majorité absolue. Donc si vous êtes un stratège du Rassemblement national, comment est-ce que vous répondez à ces désistements ?
Bah oui.
Ben peut-être que vous allez chercher d'autres désistements. C'est-à-dire que dans certains, dans certaines circonscriptions, où vous allez trouver un candidat républicain qui n'est pas encore rallié au Rassemblement national, voilà, mais que vous jugez compatible, vous allez proposer à ce député de prendre le relais et de retirer le candidat du Rassemblement national. Donc on ne peut pas exclure que dans les minutes, dans les heures qui viennent, le Rassemblement national nous annonce un certain nombre de désistements pour laisser la place à des candidats républicains, pour améliorer ses chances d'avoir une coalition un peu plus large qui lui offre une majorité absolue.
Et ce scénario serait d'autant plus cohérent que le RN a déjà ouvert la porte, en réalité, à une alliance avec la droite républicaine. Oui. Et c'est ce que n'a pas su faire le bloc centriste qui s'y prend maintenant. Mais c'est vrai que c'est au début de la campagne de dissolution qu'il aurait fallu rechercher à élargir la base. C'est uniquement comme ça que ça fonctionne, pour que ça puisse apparaître cohérent au sein de l'Assemblée nationale qui sera composée.
Merci à vous deux, merci à vous qui nous êtes fidèles.